du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans ce numéro du coq à l'âne, numéro 687, avec mes trois cocaïens. Vous savez qu'on a, on a plus d'invités politiques parce qu'on est rentré évidemment dans une période un peu compliquée au niveau de la politique. Donc, s'il fallait faire des coq à l'âne avec tous les partis, on n'en serait pas sorti. Du coup, nous sommes entre nous. Voici une émission collégiale avec Papy qui est avec nous.
Yes.
Ça fait longtemps que je t'avais pas appelé mon petit papy.
Oui.
C'est Jeannot, Jean Cointe. Mesdames et messieurs, Jean Cointe. Magnifique. Nous avons aussi Bruno André.
Bonjour.
Ouais. Le public en délire. Et nous avons également avec nous Michel Roussel.
Bonjour.
Bon voilà, on est en public aujourd'hui. J'espère que vous allez bien les amis. Vous avez passé une bonne semaine?
Oui, très bien.
Ouais, très bien. Voilà. Avec aujourd'hui.
Ouais, mais la météo, c'est pas ça quand même. Hein.
Eh oui, alors,
c'est un petit peu. Voilà.
On en parlait avec Michel justement avant l'émission. On se disait, on passe de tout au tout. C'est vrai que quand ça chauffe, ça chauffe. Et puis quand ça chauffe pas, bah ça chauffe pas.
Puis c'est bien connu, les agriculteurs, on n'est jamais content. On veut de l'eau, puis après on en a trop, et on veut du sec, et voilà. C'est
vrai que les agriculteurs.
Ah, on est pénible.
Vous nous avez encore beurré l'arrêt cette semaine là.
Ils sont capables de dire la vérité. La preuve en est.
Oh, c'est pas. Oui, cela dit, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe encore avec la réforme de la PAC? Nous avons les agriculteurs bio qui craignent de finir à poil. Ces derniers jours, vous les avez vus, les agriculteurs biologiques français ont traduit en images leur inquiétude, se faisant prendre en photo tout nu et pas tout bronzé dans leur champ. Le sexe, évidemment, dissimulé derrière des pancartes reprenant les messages. Hein. Alors, en bio, il faut savoir, et c'est important, et nous avons un spécialiste avec nous. Bah si, Bruno André, quand même, tu es un spécialiste, agriculteur à la base.
Oui.
Alors, les rendements, il faut le savoir, sont plus faibles qu'en agriculture conventionnelle. On est d'accord. Pour compenser, donc, on touche des aides de la politique agricole commune, la fameuse PAC. Mais certaines d'entre elles vont être supprimées. Alors si l'ancienne PAC prévoyait une enveloppe de 250 millions d'euros pour le bio, répartie en aide à la conversion et en aide au maintien, c'est important ça les deux, la nouvelle de 340 millions sera en fait uniquement dirigée vers l'aide à la conversion. Du coup, qu'est-ce qu'ils expliquent les agriculteurs? Ils disent c'est un peu un coup dur pour nous avec cette nouvelle PAC parce qu'on risque de perdre l'aide au maintien de l'agriculture biologique. Et certains chiffres, par exemple, leur manque à gagner environ 30 000 euros par an. Alors il faut savoir que de 200 euros en moyenne par an et par hectare, les aides financières aux agriculteurs bio tomberaient à 70 euros dans le nouveau système. On peut donc comprendre pourquoi ils ont beurré l'arrêt cette semaine, les agriculteurs. On peut comprendre qu'ils soient un peu embêtés aux entournures, comme on dit. Et on est avec eux sur le coup. Tu es avec eux, je suppose.
Oui, alors, oui, non. Parce que, en fait, ce que je sais pas tout sur les aides bio et sur la nouvelle PAC. Ce qui se dessine, c'est que aujourd'hui en région PACA, pour moi, les agriculteurs bio ont déjà perdu cette aide au maintien de l'agriculture bio.
Oui, mais en local, parce que là, on est sur le niveau européen, tu as vu.
Oui,
hein.
Mais
c'est les aides européennes.
Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur de PACA ne touchait que des aides à la conversion à l'agriculture biologique et plus les aides au maintien, puisqu'il était c'était du ressort de la région.
D'accord.
Et
Il y a certaines régions qui iront continuer.
Il y a certaines régions qui ont pris une décision politique de continuer d'accompagner le maintien à l'agriculture biologique.
Ouais. Mmh.
Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en PACA, on a un gros problème. C'est la première région qui a été impactée par la prédation. Et donc, on a groupes politiques ont mis beaucoup de moyens sur la prédation, ce qui a fortement impacté notre enveloppe agricole.
Mmh.
Et moi, ça je l'ai toujours dénoncé parce que je disais toujours la prédation, ça devrait pas être calculé sur le montant des aides agricoles, ça devrait être mis sur l'environnement. Une enveloppe à part.
Mmh.
Ce qui fait que c'est une des raisons pour laquelle, justement, les aides au maintien à l'agriculture biologique ont disparu en région PACA, mais dans d'autres régions, elles ont été maintenues. À mon avis, ce qui se passe au niveau national sur les agriculteurs bio, c'est qu'ils veulent avoir, entre guillemets, leur part du gâteau sur la nouvelle PAC. Mmh. C'est-à-dire qu'on est en pleine négociation, la France fait des propositions à l'Europe sur les répartitions, sur les modes de redistribution. Et on sait que, par exemple, il y a les surfaces proratisées, qui sont les alpages, on détermine un certain coefficient d'herbe sur les alpages, sont remises en question, notamment par les céréaliers. Parce qu'il y a, il faut pas se leurrer, en France, il y a une guerre entre les céréaliers d'un côté et les éleveurs de l'autre. Mmh. Et c'est un petit peu, ça fait rail dans les familles. À mon avis, les éleveurs bio, ils veulent aussi une reconnaissance au niveau de la PAC et avoir un peu plus, enfin une meilleure part du gâteau. Quoi.
Donc, en fait, ce qu'on comprend bien, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une transition bio, sur les 5 prochaines années, vous allez être aidé. Mais après, voilà. C'est mort. Après, c'est terminé.
Voilà.
Et c'est ça qui fait, en fait, le problème. Mais un mot, qu'est-ce que tu en penses?
Le problème peut-être du bio, c'est qu'aujourd'hui, Macron avait fait des annonces en disant qu'il voulait arriver à 15% d'exploitation en bio, etc., etc. Et maintenant, en fin de mandat, il a un petit peu oublié toutes ces promesses-là. On n'en parle plus. Ouais. Mais il faut savoir qu'en France, quand même, il y a une forte, enfin, surtout en région PACA, il y a une forte conversion d'agriculteurs à la bio. Mmh. Ça pose des problèmes parce qu'on est quand même aussi en surproduction sur certains produits.
Est-ce qu'il y a aussi peut-être une forme d'opportunisme de certains de profiter justement de ces aides et puis du fait que parlait avec Michel, qui est cette mode du bio.
Mais oui, c'est dans l'air du temps aussi. C'est vrai que c'est porteur. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, en termes de production, il y a certaines productions où on est excédentaire en bio, notamment par exemple en poire, ou en poire, même en viande ovine, où on a. Parce qu'il y a. Après, c'est les circuits de distribution qui font la différence.
Ouais, ouais,
alors,
ouais.
Sur les marchés locaux. Pas de problème, on arrive, les gens qui font du bio, qui vont sur les marchés locaux, écoulent leurs produits, ça marche, les circuits courts, etc. Sur les filières longues, sur les filières intégrées, industrielles, et que l'on retrouve en supermarché, le problème de la bio, c'est qu'on a beaucoup de bio étrangères et pas forcément françaises. Et ce qui fait, ce qui crée des décalages. Et ce qui crée aussi de la surproduction dans certains domaines.
Ça, c'est juste pas possible. C'est vrai qu'on prend l'exemple souvent du fameux concombre espagnol qui est emballé dans du plastique et qui arrive chez nous par camion.
Les dames l'adorent d'ailleurs.
Il y avait longtemps.
Tu me déçois énormément.
C'est exactement ça. J'ai aussi celle-là qui pourrait peut-être faire.
Je crois que ça va être encore une année compliquée.
Ouais, je crois aussi. Et donc ce fameux concombre qui arrive chez nous, par exemple ici, ou en France, partout, emballé dans du plastique, qui vient par camion, et c'est marqué, produit bio. Est-ce que c'est vraiment bio?
Le problème, c'est que c'est antinomique, parce que d'une part, tu as la mondialisation de l'économie qui fait que tout vient de nulle part. C'est pas l'origine vraiment des marchandises ou des biens comme des biens agricoles ou autres. Et puis en même temps, il y a un essai de rationalisation qui est fait. Donc, pour privilégier cette filière, parce que c'est vrai que la transition, c'est important. Mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a trop de poids économique, on va dire, derrière avec cette mondialisation, encore une fois, qui échappe à tout contrôle. Voilà. Pour moi, je pense que c'est bien que nous ayons suivi une espèce de voie vertueuse qui consiste à dire qu'il faut effectivement produire avec le maximum de précautions selon des normes, on va dire, écolo très strictes, bio très strictes, mais il n'en reste pas moins vrai que ça coûte plus cher. Donc il faut savoir est-ce que le consommateur est prêt à payer plus cher, c'est une autre paire de manches.
Michel, un mot?
Eh bien oui, la mondialisation effectivement a un effet qui est perturbateur. C'est aussi certains pays sont opportunistes et probablement ils produisent pas comme probablement une fois de plus les agriculteurs qui sont bio chez nous. Donc il y a peut-être un cahier des charges qui est plus rigoureux en France qu'en Espagne. Et là-dessus, Jean l'a bien dit. Hein, quand on fait du bio mais emballé dans du plastique, ça devient effectivement au-delà d'être antinomique. C'est pas possible. On peut pas continuer.
C'est incompatible,
bien sûr.
C'est incompatible,
bien sûr. La mondialisation, effectivement, c'est pourtant le seul avenir à long terme sur lesquels tu l'as dit, Jean, il va falloir qu'il y ait un chef d'orchestre, il va falloir mettre les choses en place comme il faut. On a une lueur d'espoir, en tout cas, en ce qui concerne la fiscalité des GAFA. Ça, alors, je fais le grand écart, mais pour le coup, il y a bien un début dans quelque chose. La mondialisation, on n'y échappe pas. C'est l'opportunité de certains pays par rapport à leur production, à leur audace, ou je ne sais pas. De toute évidence, le bio, effectivement, c'est... C'est, à mon sens, c'est bien. Il y a effectivement une chute de productivité qu'il faut remplacer par des subventions. Il faut l'accepter. Après, c'est vrai, ça ne peut pas être vitam aeternam. Donc, au terme des 5 ans, il y a la mutation, la transition de ceux qui ont franchi le cap doivent mettre en place tout ce qu'il faut pour continuer cette manière de produire.
Le problème du bio, c'est que c'est très périssable aussi. Ça sert beaucoup plus rapidement qu'une marchandise classique qui peut être éventuellement traitée pour la conservation.
En fait, le bio devrait être exclusivement, je vais dire, consommé et acheté localement, quoi. Voilà.
C'est vraiment
le plus proche de chez nous, en toute logique.
Moi, je pense que, en matière de consommation, c'est toujours le consommateur qui devrait être maître de la situation, et c'est lui qui devrait faire le choix. Il faut faire le choix à la limite du bio, mais surtout du local. Parce que, et il faut arrêter d'opposer aussi le bio à l'agriculture conventionnelle, parce que, On le dit jamais assez, mais l'agriculture a fait des progrès énormes en termes environnementaux, en termes de réduction des phytos, d'amélioration de ses pratiques, etc. Donc, il faut que le consommateur garde confiance en ses producteurs, parce que on va de toute façon vers le mieux et on sera la sécurité alimentaire sera encore meilleure dans 10 ans que ce qu'elle est aujourd'hui, parce que inlassablement, on travaille à l'amélioration des choses.
Ce que je voudrais dire très rapidement, c'est qu'il y a également une espèce de côté politique qui se greffe et qui, à mon avis, n'est pas bon, avec ces marchandises dites équitables. Donc, parce qu'on a la prétention de faire vivre
des petits producteurs.
Mais qui sont là-bas en Afrique. Moi, bon, j'ai rien contre, mais ça ne me paraît pas être la solution.
La solution, Jean, elle est de connaître à fond le système de production. Tant qu'on n'a pas la traçabilité et la connaissance du système de production, le consommateur, il doit réfléchir avant d'acheter, dire est-ce que c'est vraiment équitable, d'où est-ce que ça vient, comment c'est produit, et tant qu'il ne fera pas cette démarche-là, on ne s'en sortira pas.
Alors, on va rebondir, ça tombe bien, je voulais parler d'agriculture, on a débordé, grâce à Michel, sur la mondialisation. Ah. Et ça, si, c'est toi, tu as dit, mondialisation. Et c'est important parce qu'en fait, Marine Le Pen en a parlé cette semaine. Ah, bah oui. Le RN, on n'oublie pas, que le RN aujourd'hui, est pratiquement un parti normal. Beaucoup voteront pour le RN. Que ce soit cette année pour les élections régionales, surtout régionales, peut-être moins départementales, mais surtout régionales. Il y en a beaucoup qui vont voter, premier et deuxième tour. Et ce sera pareil, évidemment, pour l'élection présidentielle. Et Marine Le Pen, évidemment, vu tous les sondages qui paraissent aujourd'hui, eh bien, elle boit du petit lait. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit, Marine Le Pen. Alors, il est question pas que de mondialisation, mais écoutez, et puis... on en reparle.
Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui pourrait faire sourire au Rassemblement national, puisque tout le monde se met à être d'accord avec nous. Voilà. Bon, pendant longtemps, on a été un peu tout seul, je ne vous cache pas, on était un peu seul contre la mondialisation sauvage. Tout le monde trouvait que c'était super. La mondialisation, c'était merveilleux et tout. On va tous se donner la main. Il va y avoir plein d'emplois, machin. Bon, y a une période où ils étaient tous pour les éoliennes. Ils trouvaient ça merveilleux, c'était moderne, c'était nouveau, c'était écologique. Nous, on était contre les éoliennes. Et puis, pendant longtemps, nous avons été évidemment seuls contre l'immigration. Tout le monde trouvait que c'était une chance pour la France, l'immigration. Aujourd'hui, je pense que beaucoup ont changé d'avis. Même chose pour l'État stratège, même chose pour l'insécurité. Enfin, aujourd'hui, objectivement, nous sommes le cœur politique du pays. Disons-le clairement. C'est sur les grandes options qui sont celles du Rassemblement national que se positionne aujourd'hui quasiment l'intégralité de la classe politique française.
Voilà, nous sommes le cœur.
Moi, je suis stupéfait d'entendre qu'elle est contre les éoliennes, pourtant elle embrasse du vent, elle.
Tout à fait.
Là, je te garantis qu'on pourrait en produire là, des kilowatts.
Alors, tu as raison, sauf qu'elle n'est pas satisfaite du résultat. Pour le coup, la réalité rattrape.
Alors, est-ce qu'effectivement, comme le dit Marine Le Pen, le RN aujourd'hui, c'est le cœur?
Non, c'est un cœur de proposition, on va dire, tout autant irréaliste les unes que les autres. J'ajoute que ils vont être remis à leur place parce que c'est Macron qui sera réélu.
Ah oui, alors toi, tu es dans l'idée et tu n'en démords pas. Tu sais que, enfin, vous le savez, hein, on en parle, il est pas sûr de pouvoir se représenter. Il l'a dit cette semaine. Vous savez qu'il était.
Pourquoi sa maman est pas d'accord ?
Il est parti. Il est parti en vadrouille. Il est parti faire la tournée des Grands Ducs. Hein, vous le savez. Il a pris son bâton pèlerin. Il était notamment à Saint-Cirq-la-Popie, magnifique village de France. Hein, magnifique, fait, oui. Très beau, très beau. Il était à Cahors, etc. Il a dit qu'il était trop tôt pour dire s'il sera candidat à la présidentielle en 2022. Il estime qu'il va devoir prendre des décisions, certaines difficiles cet été, dont certaines d'entre elles, eh bien, ne rendront peut-être pas possible sa candidature. Donc, voilà. Donc, il est pas sûr. Alors, est-ce que ces Pipo Bimbo sont dans un bateau? On n'en sait rien. En tout cas, il est pas sûr. Et toi, tu es persuadé que s'il se présente, il battra de toute façon Marine Le Pen?
C'est certain. C'est, on va dire, la logique qui fait que les électeurs au dernier moment ne feront pas confiance à ce parti qui n'est pas un parti de gouvernement. C'est tout.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même, vous avez suivi hein, les différents sondages qui peuvent paraître, bon, alors, on est à un an, hein, mais déjà, je pense que les régionales vont nous donner une petite idée quand même sur la question, parce que s'il y a une, deux, trois régions qui basculent à droite, ça risque d'être compliqué pour
l'extrême droite.
L'année prochaine. Oui, à l'extrême droite, pardon. Ça risque d'être compliqué pour celui qui se présentera face à Marine Le Pen. Les derniers sondages sont clairs, hein. Macron, premier tour, 27 points. Marine Le Pen, 28. Donc c'est serré. Marine Le Pen est devant.
T'affole pas, mon petit Thierry. On aura le temps d'en reparler. Moi, je pense qu'il faut d'abord voir ce qui se passe au niveau des régionales. Voir ce qui. Est-ce que le Rassemblement national.
Le Front Républicain va-t-il se mettre en place? À chaque fois, on parle du Front Républicain. À chaque fois, il a lieu. Mais est-ce qu'arrive à un moment, gens vont pas dire.
La vraie question, elle est
basta,
là. Est-ce qu'à un moment donné, le Rassemblement national va gagner une région, deux ou trois?
Ouais.
Et ça, c'est là qu'on pourra faire des hypothèses sur la suite. Après, on peut aussi se poser la question de savoir si Macron sera candidat ou pas. Ça fait longtemps.
Il est forcément candidat, puisque par définition, il va enterrer le projet de loi sur les retraites.
Non, mais Jeannot...
Il en a parlé, effectivement, tu as raison, Jeannot. Il en a parlé, il a dit qu'il ne sera pas représenté dans la même forme.
Vu l'épisode sanitaire qu'on a parlé, vu les mesures économiques qu'il a prises, et qu'il fallait prendre certainement et tout... peut-être qu'il nous réserve des mauvaises surprises et des mauvaises annonces pour l'été ou pour la rentrée.
Ouais,
parce que, à un moment donné, il va quand même peut-être falloir faire un petit peu l'addition de tout ça. Et moi, je reste persuadé qu'à un moment donné, il va falloir payer la note, quoi.
Et l'addition. Et là, c'est, je vais poser la question à Michel, qui est un ancien travailleur.
Oui.
Et employeur par la même occasion, puisque tu avais de la main-d'œuvre qui travaillait avec toi. Oui. Aujourd'hui, avec le déconfinement, il y a beaucoup de secteurs d'emploi qui ne trouvent pas de main-d'œuvre.
Oui.
Il y en a beaucoup. L'hôtellerie, la restauration, le BTP, c'est compliqué visiblement de remettre tout le monde au travail. Alors, est-ce qu'on n'a pas atteint les limites du système d'aide en France, qui a été notamment instauré depuis un an et demi hein, maintenant, où on a permis aux gens, effectivement, de continuer à avoir du pouvoir d'achat sans travailler. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont peut-être pris une habitude qui est pas terrible, c'est-à-dire de pouvoir toucher des aides sans forcément aller bosser. Et là, ils se disent, on va peut-être attendre septembre pour repartir. Et il y a beaucoup. Et l'hôtellerie, la restauration. Alors, peut-être pas dans les grandes villes, notamment à Paris, où visiblement ça reprend bien. Mais il y a beaucoup en province de gens qui ont du mal à trouver du personnel.
Eh ben oui, mais ça, je dirais que c'est bon. Aujourd'hui, ça s'accentue. On le touche du doigt parce qu'il y a eu cette période de Covid qui a redonné certaines règles. Mais le fond, il n'est pas d'aujourd'hui. Il est de très longtemps. On a fait croire aux gens qu'on pouvait avoir une vie facile et ludique. Ça marche pas. Je me suis permis ici même à dire qu'on a inversé les droits et les devoirs.
Ouais,
à tort ou à raison, c'est très personnel.
Tu t'étais presque fâché avec Jean-Claude Hérault.
Jean-Claude Hérault, que je salue, a eu le fair play de s'excuser à la sortie. Il en avait, en fait, moi, j'en tenais aucune rigueur.
Mais ouais,
la discussion, à un moment donné, effectivement, on peut sortir de ses gonds, on peut ne pas être d'accord. Et c'est au contraire, moi, c'est ce qui me plaît, c'est on évolue comme ça parce qu'on peut ne pas être d'accord. En tout cas, ce que tu dis, c'est vrai. Je prendrai deux trucs que je connais un tout petit peu, c'est le bâtiment et l'agriculture. On l'emploi, la main d'œuvre des gens, des exécutants, c'est à 80% des étrangers qu'on continue à faire venir. On a en France 3,5 millions de chômeurs de classe A récurrente et d'autres. C'est assez singulier de considérer que dans ce pays, on n'arrive pas à pourvoir aux demandes d'emploi, parce que dans les saisonniers, aujourd'hui, tiens, les étudiants sont pleins. Aujourd'hui, vous allez sur la côte et tout, ça va être ouvert. Eh bien, les gens ne trouvent pas, les restaurateurs ne trouvent pas. Bien sûr, ils n'arrivent pas à trouver complètement. Il y a quelque chose, mais c'est sociétal, c'est très profond. Emmanuel Macron a pris des décisions économiques. On se rend compte effectivement que le placement, l'épargne globale a augmenté. C'est entre 2020 et 2021 aussi, a augmenté, ce qui laisse entendre qu'effectivement, il y a des aides qui sont arrivées, tout n'a pas été dépensé, ça a été plus ou moins épargné. Alors, semble-t-il, ce sont les plus riches qui ont profité, etc. Là-dessus, je peux pas, j'en sais rien. En tout cas, Macron, j'ai salué dès le départ son action d'aider tout le monde pour une reprise
dans le fameux quoi qu'il en coûte.
Exactement. Sur le coup, il a bien fait. J'étais loin d'imaginer, et peut-être lui aussi, que ça allait perdurer, que ça a duré autant de temps. Bon, cela dit, la dette qui est aujourd'hui à 120% du PIB, faut pas être inquiet, notamment à l'issue de cet épisode de Covid. Là où je rejoins Bruno, c'est qu'effectivement, on est en droit de se poser des questions et il faut être réaliste. La réalité, c'est de considérer qu'il va falloir retrousser les manches et peut-être faire des efforts. Il va falloir, pour une grande partie, rembourser cette dette. Il y a une dette qui ne sera pas remboursée, c'est notamment celle de l'Europe. Oui. Ça a été annoncé puisqu'elle est... Mais par contre, l'autre dette, c'est-à-dire celle quand l'État a besoin d'argent, il va chercher de l'argent essentiellement, pour une grande partie, dans les assurances, donc sur les fonds euros, dont certains ont un peu d'argent placé. Et si, comme certains le disent, il faut écréter, annuler cette dette, il faut savoir qu'on va appauvrir certaines catégories de gens. Donc voilà, c'est un choix à faire. Une fois de plus, un choix politique. Moi, je suis... Bon, je suis pas forcément favorable à ça. S'il faut un peu écriter, pourquoi pas, mais il faut qu'aussi ce soit démocratique. Et pour le coup, j'ai un tout petit peu de fonds euros, j'aimerais être sollicité et dire bah oui, je veux bien, mais de là à là, éventuellement, parce que on impacte aussi la première génération, les générations de nos parents ont commencé à impacter notre principe de consumérisme. Nous, on est en plein dedans. Moi, j'ai plein d'amis, de relations sur lesquelles ils sont dans le mécanisme social, c'est désolant. Et qui critique farouchement la société. La société, elle peut être, elle est pas idéale, elle peut être critiquable, mais surtout, il y a un moment donné, avant de critiquer, on se doit de balayer devant sa porte. Et le phénomène, c'est que il faudrait que chacun puisse être utile aux autres, mais on n'est plus dans cette logique.